Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, monsieur, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à Samedi en France. Vous le savez probablement désormais, chaque semaine on vous propose quatre sites situés en France et dont l'originalité, en tout cas on l'espère, devrait séduire votre curiosité. Alors dans un instant, exemple, Gergovie, ça vous dit quelque chose? Probablement. Alors c'est la seule et unique victoire d'un certain Vercingétorix contre le méchant Jules César. Alésia, vous le savez, a depuis longtemps son musée, mais celui de Gergovie, ben, il est tout récent. Il a à peine 2 ans et il est magnifique et très moderne. Un peu plus tard, direction Saint-Denis pour découvrir son appel. Alors, ça s'appelle une ferme ouverte et c'est aux portes de Paris. Les petits citadins, ils seront évidemment les bienvenus. Et après ça, vous aurez droit à une visite de plein air comme on le fait à chaque fois. Alors, les beaux jours ne devraient pas tarder et là, ça sera en plein golfe du Morbihan. Vous allez voir, c'est une immersion dans le métier d'ostréiculteur à bord de son grand bateau. Durée d'apprendre date, c'est 3 heures dans le golfe du Morbihan, c'est formidable quand même, rien que l'idée. Mais tout de suite, on commence avec un site dans la catégorie insolite. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pour vous permettre de le visiter, ce site, il propose, les organisateurs, de vous faire mener une enquête. Alors c'est une sorte de cluedo géant, savez-vous, on peut appeler ça murder party aussi. Pour résoudre une énigme, alors il y a des figurants, il y a des coupables, il y a des gens qui sont tout à fait morts, et pour tenter de résoudre une énigme. Alors ça va vous permettre, pourquoi on fait tout ça? De faire connaissance avec le Berry et ses merveilles. Alors comme d'habitude, on n'est pas toujours les premiers en France en géographie. Donc Gavin Clémenté Ruiz, mon complice du guide du Routard, qui lui a fait histoire géo, première langue. Où sommes-nous exactement? Parce que ça nous aiderait bien. Bonjour Monsieur Gavin.
Bonjour William, bonjour à tous nos auditeurs. Eh bien, le Berry, c'est l'ancien nom de cette région qui est située dans le département du Cher, entre l'Auvergne et le Limousin au sud, et la Sologne au nord. Et le tout est traversé par le fameux Cher.
Oui, mais on dit toujours le Berry, je trouve. C'est pas plus mal.
Ça reste une appellation qu'on peut encore utiliser, bien sûr, mais c'est comme l'Anjou, mais
oui,
ça n'a plus lieu d'être.
C'est
d'un
pas
point
tout
de vue
neuf comme appellation, mais nous, c'est ce qui avait marqué sur la carte quand
exactement.
On était petit.
Exactement, donc on garde ce nom pour cette région de châteaux, de vignobles, de jardins. C'est vraiment très beau, vous l'avez dit. C'est une région aussi qui a été créée une des premières routes touristiques. C'est la route Jacques Coeur, le grand argentier de Charles VII. Mais fallait trouver une idée, en fait, pour visiter tout ça à la fois d'une façon un peu plus originale.
Successivement, c'est ça qui est marrant. C'est la bonne idée, quoi, d'avoir trouvé quelque chose qui fait le lien.
Exactement. On va aller voir plusieurs endroits, plusieurs lieux, des châteaux, des palais, etc., qui ont fait la beauté, le prestige de cette région.
Et c'est là que ça devient solide.
Exactement. C'est là, au cœur de cette région, qui est vraiment riche en histoire, qu'ont été créés les fameux murder parties.
Oui.
J'aime bien le mot.
En français, ça donne quoi?
Ah, ça donne, si je veux traduire directement, une soirée de meurtre.
Une soirée enquête.
Allez, on pourrait dire même aussi un grand jeu de rôle, grandeur nature, une soirée enquête, ouais. Dans tous les cas, il y a un meurtre et l'idée, c'est vous, William, ou tous les visiteurs qui vont venir, de trouver qui a tué, qui est l'assassin. On cherche l'assassin.
Ah ouais, on peut avoir des conciliations avec les autres visiteurs.
C'est ça. Alors, tout ça, c'est mené
par un meneur de jeu,
exactement. Et puis, vous avez peut-être des voisins que vous ne connaissez pas qui peuvent être soupçonnés. On va voir.
Ah non, c'est pas mal.
Ça devient intéressant.
Bon, voilà, vous avez compris que c'était une façon tout à fait originale, tout à fait ludique de découvrir ces lieux-là. Et on les visite pour l'occasion. On vient pas là que pour la murder party. Alors, ça mérite des explications quand même. Nous sommes en ligne avec Gaël Chenet, qui est animateur réseau de la route Jacques Coeur. Bonjour Gaël.
Bonjour William, bonjour Gavin.
Bonjour.
Alors, depuis quand existent ces murder parties d'ailleurs?
Alors, c'est la 10e année que nous faisons ces murder parties, ces soirées crime au château.
C'est pas mal ça, crime au château.
C'est mieux résumé. C'est tellement mieux résumé. Bravo.
Alors, ça se passe comment une murder party par exemple?
Alors, ça commence toujours en début de soirée ou fin d'après-midi, en dehors des heures d'ouverture habituelles au château, de manière à bien mettre les gens dans l'ambiance. Très feutré d'un site historique, la visite du lieu commence et un crime est découvert au milieu de la visite. Le crime n'est pas tout de suite dévoilé. Donc les gens sont témoins du crime, ils ont rencontré les personnes qui vont être suspectées
D'accord. Alors là, quand on est là, on visite, on est avec d'autres visiteurs, et parmi ces visiteurs, il y a des figurants, des comédiens, des gens qui vont témoigner, où il y a parfois le futur coupable ou le futur mort.
Tout à fait. Et ces figurants, ce ne sont pas des comédiens professionnels, à chaque fois ce sont des comédiens bénévoles. Ah. Et dans ces comédiens bénévoles, il peut très bien y avoir le véritable propriétaire du château ou le conservateur du musée qui joue son propre rôle.
Ah oui,
et
bah
donc on mélange la fiction et la réalité.
Ah, c'est drôle. Je suppose qu'au fur et à mesure, bien sûr, on visite les pièces pour une bonne raison. D'abord parce que c'est agréable à visiter, il y a plein de choses à apprendre, mais parce qu'il y a peut-être des indices, non ?
Alors, en fait, on se sert de l'histoire et de la visite du site pour distiller effectivement les indices à travers l'apparition des personnages qui vont être suspectés du crime plus tard.
Alors, ça se passe uniquement dans votre région ou, est-ce qu'on suit la route Jacques Cœur en sortant du département ou on reste dans le département ?
Alors, ça va au-delà du département, puisqu'on va même au château de Vien dans le Loiret et au château de Peufeuillot dans l'Allier. Il y a une dizaine de lieux sur l'ensemble de la route Jacques Cœur qui proposent ces soirées.
Alors, quand on fait une soirée comme ça, on passe la soirée dans ce lieu-là, mais si on veut visiter un autre palais, un autre lieu, une abbaye, je ne sais pas, c'est le lendemain, c'est pas le même soir qu'on fait tout ça.
Ah oui, c'est effectivement, on peut le faire ou avant ou le lendemain pour visiter d'autres
Donc,
lieux.
Donc, il y a de quoi faire, quoi, c'est ça que je veux dire.
Tout à fait, on peut se faire ça sur un week-end, on peut prévoir notre soirée crime et puis d'autres visites durant le week-end.
Ce soir,
ou alors pendant 15 jours.
Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Moi, je veux une soirée crime. Ah bon, tu connais le... Non, je ne sais pas qui c'est un gars qui va mourir. Bon, il y a un scénario que vous avez écrit. Alors, il paraît qu'il y a pas mal d'humour pour installer le suspense, c'est vrai ?
Bah oui, tout à fait, parce que bon, on veut vraiment démystifier la grande histoire et la rendre plus accessible à tous.
Oui.
Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de faire jouer les vrais protagoniste du lieu, le vrai conservateur ou le vrai marquis, ça rend les choses vraiment assez amusantes.
Et est-ce que c'est à chaque fois la même énigme ou à peu près ?
Ah bah non, chaque histoire est écrite en fonction du lieu. C'est ça qui rend les choses diversifiées et amusantes. Comme ça, on peut en faire plusieurs sans avoir l'impression de l'avoir déjà fait.
D'accord, et on peut recommencer quand on revient. Et ça dure combien de temps à peu près ?
Ça dure 2 heures environ.
Ah, c'est pas mal. Et les enfants sont accueillis ou c'est
peut-être... À partir de 7 ans jusqu'à...
Bon, bah alors ce sont des visites d'un genre très particulier. Ce qui est bien, c'est qu'on concilie les deux. C'est-à-dire qu'on voit des choses pour lesquelles on s'est déplacé. C'est des choses qui ont un rapport avec l'histoire, la grande histoire. Et puis c'est rigolo. Donc bravo, merci beaucoup Gaël pour cette visite rapide. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Merci. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Gavin, alors, comment fait-on pour aller là-bas ? On réserve, je suppose.
En effet, ouais, pour devenir enquêteur d'un soir, William, il faudra...
Ou mort d'un soir.
Ou mort d'un soir. Bah, je ne vous souhaite pas quand même. Enfin bon, là, il ressuscite. Donc
moi, j'ai
bien.
Des photos, là.
Hein. Ouais.
J'ai vu, là. Alors, c'est marrant, plaît. Ils sont tous là en costume.
C'est vraiment un Cluedo géant.
Alors, ils sont en costume, je dirais... Ah ben non, oui, non, j'allais dire que c'était peut-être fin 19e. Non, non, pas forcément.
Non, c'est juste une personne qui s'habille de façon originale.
D'accord, mais c'est marrant, non ?
C'est pas mal. Ouais. Alors, ça coûte 20 euros, William, pour un adulte, et 16 euros pour les plus jeunes. Il faut réserver sur le site, bien sûr, routejacquesfrance.com. On met tout ça sur le site europe1.fr. N'ayez pas peur.
Et pour dormir dans le coin, peut-être pas dans le château, mais à côté ?
Eh ben, je vous propose d'aller dormir à Bourges. Alors, il y a des chambres d'hôtes, ça s'appelle les Bonnets Rouges. C'est dans une maison du 15e siècle. Il y a 5 chambres, donc c'est assez cosy, c'est assez intime. Toutes bien décorées, c'est assez romantique. Il y a des baignoires sabots, il y a des lits à baldaquin. Il y a un beau jardin, il y a même un hammam si vous voulez. 80 euros la nuit pour deux, ça va, c'est correct.
Ouais, on a connu plus cher. Hein.
Ouais, et puis tout ça, bien sûr, sur Europe 1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Pour le site de la catégorie patrimoine de l'émission d'aujourd'hui, nous avons choisi, avec le centurion Clément Tervis, un site un peu oublié des itinéraires touristiques traditionnels. C'est donc dans le Puy-de-Dôme et c'est un site majeur. Je pèse mes mots, c'est un site majeur de notre histoire, mais pas connu. Parce que c'est sur le plateau de Gergovie que Vercingétorix a signé, pauvre garçon, sa seule et unique victoire. En fait, il n'en a gagné qu'une, hein. Il est célébrissime dans l'histoire de France, mais il a gagné qu'une bataille. Il a surtout perdu une sacrée bataille, c'est Alésia. Et là, c'est contre Jules César qu'il a gagné à Gergovie. Et ben, on parle plus d'Alésia que de Gergovie. Et on s'est dit, ben non, nous on va faire l'inverse. Vous me direz, si vous êtes Calais, à Alésia, il y a un magnifique musée. Ouais. Ce qui est vrai.
Oui.
Oui, mais à Gergovie aussi. Et
oui.
Ça, on ne le savait pas.
C'est pour ça qu'on est là.
Ouais. Et alors, ça ressemble à quoi ?
Alors, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble, bah c'est un joli musée qui affleure de la montagne. Il est posé comme ça. On est à 15 minutes au sud de Clermont-Ferrand. Alors, c'est là, vous l'avez dit, William, qu'en 52 avant Jésus-Christ,
oui.
Au moment où la Gaule était envahie par les Romains, que Vercingétorix a gagné contre Jules César. Il l'affrontait avec ses troupes. Et il y a de nombreux vestiges archéologiques qui ont été mis au jour. Et le musée, il a 2 ans d'âge. Et il raconte cette histoire bien moins connue. Qu'Alésia.
Non, mais c'est ça qui est intéressant. Si, il faut que nos auditeurs le sachent. Alésia, c'est formidable ce qu'ils ont fait là-bas.
Beau, c'est un très
mais
beau
du
musée.
Coup, on a oublié Gergovie. Et ce qui a été fait, je trouve ça remarquable à tout point de vue. Hein. On va en reparler, l'architecture, l'intérieur. C'est d'une architecture tout à fait contemporaine. On dirait des cubes de terre, j'ai l'impression.
C'est
Quand on voit les photos, c'est ça, non ?
Des cubes de terre ou de métal, c'est vrai qu'ils sont posés à fleurs de plateau, un plateau très très vert. Hein. On est au cœur du Puy-de-Dôme. Et quand on rentre dans le musée, eh bien, on est comme surpris entre la différence entre le cadre très naturel et la technologie qui est utilisée
c'est
là. C'est vraiment ça. On a utilisé toutes les dernières technologies pour vous plonger au cœur de la bataille en 3D dans un espace d'exposition qui est assez impressionnant. Hein. 600 mètres carrés quand même, pour vous donner envie de comprendre.
Alors,
cette bataille.
C'est pas pour opposer un musée à l'autre, mais celui-là est plus contemporain, et toutes les techniques, la high-tech a été utilisée là, c'est ça qui est remarquable.
C'est ça.
C'est pas, parce que parfois, certains, quand on leur parle de musée, ils nous disent, ouais, bah musée...
Surtout un musée qui parle d'histoire archéologique.
Ouais, c'est un peu poussiéreux, votre truc, on va éternuer sur les os, les crânes. C'est pas le cas, non ?
Non, pas du tout. C'est hyper moderne, au contraire. Plutôt que de parler de muséographie au niveau de ce musée, j'ai envie de parler plutôt de mise en scène.
Oui, voilà.
Vraiment, c'est
Mais
ça.
C'est la tendance en ce moment,
dans ces
jeunes musées, si j'ose
ça
dire.
Ça fait du bien, quelque part, de dépoussiérer un peu les faut avancer, quoi, tout simplement. Le bâtiment, il est ouvert, vous verrez, sur le plateau, en pleine nature, on est vraiment, on est en immersion, il y a du vert, hein, les vitres sont vraiment très belles, ça donne vraiment la sensation d'être au cœur de la bataille, et on va revivre ça d'une façon très originale, très technique et très technologique. Ça plaît à tout le monde. C'est vraiment une belle découverte, ce musée de Gergovie.
Pour en savoir un petit peu plus, nous sommes en ligne avec le directeur. Alors, c'est une visite qu'on vous propose, madame, monsieur, auditeur d'Europe 1. C'est une visite privée pour l'instant, hein, de ce musée archéologique de la bataille de Gergovie. Bonjour Frédéric Nancel.
Bonjour William, bonjour Gavin.
Bonjour.
Alors, pour commencer, on va revenir sur l'architecture. Pourquoi c'est tout semi-enterré ?
Écoutez, on doit cette architecture à un Gaulois arverne local qui s'appelle Jean-Paul Royard. Je le cite parce que il a réfléchi à l'histoire et en fait, quand vous arrivez du plateau, vous avez monté les 750 mètres. Le musée, on le voit pas tout à fait, il se confond dans le paysage.
C'est vrai.
Et puis d'un seul coup, quand vous arrivez, vous avez ces 3 cubes, vous l'avez très bien décrit, en métal, ça rappelle l'âge de fer, bien sûr, des Gaulois.
Voilà.
Et puis quand vous êtes au pied du musée, de l'autre côté, vers la plaine, alors là, ça, c'est très impressionnant, c'est l'idée du rempart. Et comme le dit d'ailleurs Jean-Paul, il fallait pas être très bon romain quand on était à l'époque de 52 avant Jésus-Christ, parce que ça, c'est très impressionnant, quoi. C'est abrupt. Voilà. Donc c'est une très belle architecture qui raconte déjà l'histoire du musée de Gergovie.
Et alors, ça raconte aussi l'histoire de ce site. Pourquoi se sont-ils retrouvés là, les uns face aux autres ? Pourquoi Gergovie ? Quel est celui qui a attiré l'autre pour bon, ça, je suppose que vous l'expliquez dans le musée. Entre autres.
Oui, entre autres. Si vous voulez, ce musée, c'est 4 choses essentielles. Bien sûr, la bataille au centre.
Oui.
Vous l'avez expliqué, Gavin l'a expliqué, avec cette maquette, ce 3D, ce mélange de cette complicité entre la technologie et les objets archéologiques. Mais surtout, on essaye de poser des questions. On se pose nous-mêmes des questions.
Moi, je m'en pose plein. Hein.
Voilà.
Moi, je connais
pas. Venez.
Non, mais je m'en pose plein. Je dis, mais comment Ce Jules César, qui est quand même le malin de la stratégie, comment il s'est fait coincer dans ce lieu-là par cette bande de gars qui se connaissaient plus ou moins ? C'était des tribus qui avaient été agglomérées par Vercingétorix, voilà quoi.
Oui, alors ça a commencé un peu plus au nord, vers Bibracte, hein, la fameuse grande cité gauloise, où Vercingétorix a eu ses lettres de noblesse de grands chefs gaulois, mais surtout... Vercingétorix a appris beaucoup de choses avec les Romains et il attire, Jules César chez lui à Vercingétorix et on est plus fort chez soi. Et donc, et en plus, voilà, et puis la géographie, la topologie, la topographie fait qu'il a utilisé aussi sa connaissance du terrain, hein, c'est très clair.
Ah, c'est ça l'idée. C'est qu'il était chez lui et il a fait semblant de fuir. Pas du tout, il est resté chez lui.
Bien.
Et c'est ça, il l'a coincé là. D'ailleurs, moi, j'ai fait des recherches avec Gavitz et il paraît que Jules César dit dans son journal qu'il a perdu un max d'hommes. 700 et dans cette région, dans cette bataille, c'est énorme.
Oui, mais alors vous savez, rien n'est simple. Hein. Rien n'est simple dans les faits d'armes, dans les faits militaires. On voit bien aujourd'hui que c'est compliqué de savoir, d'avoir même des chiffres actuels sur pensé quand même en Ukraine. Hein,
il a peut-être bluffé, Jules.
Et non, il n'a pas bluffé, mais c'est un grand storyteller, notre ami Jules César. On pense quand même aujourd'hui, avec les archéologues, les historiens, que quand même 30 000 personnes de chaque côté, enfin on pense qu'il y a quand même plus que 700 personnes qui sont mortes. Je pense qu'il a pas exagéré là les chiffres à mon avis.
Ces fouilles, on en retrouve une partie dans le musée d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'appelle archéologique je suppose.
Ah ben non, on a plus de 300 objets. Alors toute l'idée, le pari, c'est que le plateau de Jergui en tant que tel a été très peu fouillé en fait, 2%, 3%. Et il y a toute une dynamique qui est faite avec nos partenaires, l'INRAP qui fête ses 20 ans, le département, la région, l'État, bien sûr, l'État qui est propriétaire. Le site est classé monument historique et donc on a des programmes de fouilles. Si vous venez cet été, vous allez avoir
des
chercheurs. Ça continue.
Ah oui, c'est incroyable ça. Donc vous alimentez d'année en année le musée, c'est ça qui est une idée assez originale, franchement. Hein.
Oui, avec le temps archéologique aussi, parce que entre le moment où vous trouvez des fouilles et le moment où on va pouvoir exposer les objets archéologiques, il y a un petit temps, vous savez, on est en France, on a besoin de bien être sûr de ce qu'on va dire sur tel ou tel objet. Donc ça va arriver avec son temps, mais on est content de voir qu'il y a des fouilles, il y a des choses intéressantes.
Et il paraît que vous faites des expositions temporaires sur l'un ou l'autre des protagonistes.
Comme tout musée, on se doit d'avoir des petits focus sur tel ou tel sujet. Le premier, c'était inévitablement Vercingétorix, le héros sans visage. On se pose plein de questions.
J'imagine pour la suivante.
C'est le régional de l'étape, là.
C'est quand même une figure mythique, emblématique, et qui pose plein de questions, mais qui est géniale. Et puis le deuxième personnage, ça va être César.
Vous vous rendez compte d'une distribution, c'est un casting d'enfer, quoi.
C'est un super film.
Film.
Alors c'est un casting d'enfer, surtout que là, la première expo avec Vercingétorix, on n'a pas beaucoup d'éléments réels, à part des statères, des pièces de monnaie sur lesquelles on pense que c'est lui. Mais avec César, on a un peu plus d'éléments, poser des questions. Mais surtout, on va permettre à Gergovie de faire le lien avec d'autres musées nationaux et internationaux. Je parle à Saint-Germain, Le Mans, je parle de Darles, je parle Alésia, que vous avez cité tout à l'heure. Voilà.
Mais on peut continuer si on est intéressé par cette époque-là. On peut aller un peu plus loin. Il y a au Puy-de-Dôme, hein, sur la thématique gallo-romaine. Je trouve que c'est intéressant la région.
Écoutez, je ne le savais pas quand je suis arrivé il y a 3 ans, mais cette région est une des régions les plus riches en vestiges archéologiques de cette époque. Et effectivement, vous l'avez cité, la pierre aussi nous relie par la lave volcanique. Tout ça, c'est complice. Le temple de Mercure, c'est le plus grand temple de montagne gallo-romain du
magnifique.
Début de l'ère. Vous avez aussi un point important à visiter. C'est à Lezou, c'est à quelques kilomètres de Gergovie. C'était la plus grande usine de céramique sigillée des Romains du 1er siècle au 4e siècle. Donc, vous imaginez tout ce qu'il y a de richesse dans ce territoire.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que c'est plus qu'une expérience, c'est un plongeon dans l'histoire.
Bon, alors si on veut faire tout ça, d'abord sur le musée proprement dit, le vôtre là, c'est quoi? Il faut au minimum 2 heures, hein, si on veut bien être pénétré par tout ce qu'on voit, au moins ça, d'accord?
Oui, il faut 2 heures et aussi profiter de l'environnement naturel. Gergovie, c'est le musée, c'est l'histoire et c'est aussi un environnement naturel absolument extraordinaire avec avec des oiseaux, des fleurs, des moutons. Enfin, vous êtes aussi complètement déconnecté de l'urbain.
C'est ça. Quand je vois sur la photo, il y a le musée, mais autour, c'est que la nature. Hein, et sur des dizaines de kilomètres, c'est vraiment très beau. Bravo. Merci beaucoup, Frédéric. Bon après-midi.
À très bientôt.
Au revoir. Gavins, alors, comme d'habitude, même question. C'est ouvert toute l'année, oui, non ?
Toute l'année, oui, sauf en janvier, de 13h à 18h. Alors, tous les jours pendant les vacances scolaires. Ah. Ça coûte 8 euros pour un adulte, 6 euros pour un enfant. Il y a un tarif famille, ça c'est vachement bien, je trouve.
Un tarif quoi ?
Famille, 20 euros pour deux adultes et deux enfants.
J'entends qu'il y a un tarif ami.
C'est un tarif ami.
Oui, je suis le copain du gars. Là,
c'est un tarif ami à ce prix-là.
J'ai pas compris.
20
non,
euros
famille.
Pour... Oui, deux adultes, deux enfants, 20 euros, c'est pas mal. Et c'est gratuit pour les moins de 6 ans aussi. Et je sais que les moins de 6 ans, ils adorent ces pierres et ces gallo-romains.
Pour dormir dans le coin, on peut rester là, oui.
Bien sûr. Ah bah surtout, moi j'aime beaucoup cette région. On reste sur la thématique de l'histoire et je vous propose d'aller dormir à l'hôtel de la Belle Meunière.
La Belle Meunière, on dirait une opérette.
Bah, c'est presque ça.
La Belle Meunière.
C'est presque. C'est un.
Avec Kino Rossi.
Attendez, on est vraiment pas loin. C'est à Roya. C'est pas loin de Clermont-Ferrand, Roya. C'est là que le général Boulanger se retrouvait avec sa
fiancée.
Sa fiancée. Et ouais, le général. Donc c'était un peu l'ambiance d'opérette. Hein. On est carrément dans. C'est déco Art Nouveau. C'est là aussi où Napoléon III venait se retirer pour dormir quand il venait au terme à Roya. Et c'est là aussi où Coco Chanel venait dans sa jeunesse. En Auvergne, elle est descendue à la Belle Meunière, c'est à Roya, et la nuit est à partir de 139 euros. C'est très joli la déco, c'est vraiment un bel endroit.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Alors dans Samedi en France, nous tentons de vous faire découvrir des techniques, des artisanats, des savoir-faire, quoi. Un peu oubliés et remis parfois au goût du jour. À votre avis, est-ce qu'il y a une ferme digne de ce nom à 20 minutes de Paris? La réponse, je vous la fais tout de suite, c'est oui. C'est en Seine-Saint-Denis, là où sont enterrés les rois, là où triomphent les équipes de France, parce qu'il y a le Stade de France, mais ça n'a rien à voir avec le sujet qui suit. C'est là où les banlieues sont parfois un peu agitées, on dit ça aussi. Alors, figurez-vous, là-bas, il y a aussi une ferme ouverte. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire au juste? Pourquoi ferme ouverte? Monsieur Ruiz, éleveur au guide du Routard lui-même, d'ailleurs.
Je range mon foin et j'arrive. On est à Saint-Denis-William, on est tout près de Paris.
Ouais.
Donc c'est un projet, en fait, c'est un projet d'équipe. C'est un projet très généreux, ingénieux aussi, qui dépend des propriétaires de la ferme de Galli. Alors la ferme de Galli...
Il faut expliquer peut-être ça.
Ouais, parce que... Elle est située à l'ouest de Paris. L'idée, c'est de dire que la nature fait beaucoup et c'est à nous en fait, de faire le reste. Mmh. En gros, il s'agit d'une ferme aux portes d'une des plus grandes villes du monde, hein, Paris, et pour prouver qu'on peut se nourrir de la terre et montrer surtout comment cette terre fonctionne. Aux petits citadins, alors là, je pense à mes marmots, mais aussi aux grands. Hein. Moi aussi, j'apprends des choses. Quand je suis allé, j'ai appris plein de choses. Et avec tous les... Il y a les animaux, bien sûr, qui sont là. Et puis... C'est une ferme où aussi il y a des ateliers pour vous apprendre à faire des choses avec les produits de la ferme.
Alors, on va le voir dans un instant, c'est une ferme aussi pédagogique. Mais à la ferme de Galli, à l'origine de tout cela, on peut acheter des choses.
Hein, exactement.
Qui ont un rapport avec des produits.
On peut cueillir, il y a les fameuses cueillettes. On peut aller cueillir ses fraises quand c'est le moment des fraises. Et donc là,
non, mais vous pouvez acheter des jus de fruits, vous pouvez faire votre marché.
Vous pouvez
acheter des fleurs, etc.
Et les enfants aiment bien manger les fraises quand ils cueillent en chemin,
ouais,
ça c'est rigolo.
Ah non, mais il y a un monde fou. Hein,
ils ont des joues toutes rouges de fraises, c'est assez amusant.
Alors, je vous disais, c'est une ferme pédagogique, on peut dire ça?
Oui, c'est ça, exactement. Ils utilisent aussi sur place à Saint-Denis le terme de ferme urbaine. Alors, ferme ouverte, ferme urbaine, ça veut dire que tout le monde est bienvenu. Et j'avoue, j'aime beaucoup ce terme. Tout commence, en fait, il y a plus d'un siècle sur place. C'était en 1920. Il y avait des plantations maraîchères. C'était là, c'était la famille Kersanté à l'origine. Mm-hmm. Cette zone a été aussi appelée, j'aime bien, la plaine des vertus.
Pourquoi ça?
Bon, c'était le nom qui était adopté à l'époque. Mais en fait, c'était surtout le garde-manger de la capitale.
Ah oui.
Alors aujourd'hui, c'est un peu plus dur à imaginer, hein, avec tout le béton qu'il y a autour. Mais pourtant...
Il n'y en a pas beaucoup d'espace nature. Hein.
Exactement. Il faut en profiter parce que c'est ouvert au public. Ces terres ont été louées par la ville aux fermes de Galli pour qu'elles les exploitent. Et c'est l'occasion de mettre en avant aujourd'hui ce projet pédagogique, ce projet culturel, hein, parce que ça fait vraiment partie de notre patrimoine. On peut tout apprendre de l'exploitation de ces terres en allant voir cette ferme ouverte. Mmh. On fait coucou aux animaux, on assiste à leurs soins aussi en fin de journée. Et aujourd'hui, ce qui nous intéressait dans cette partie pour notre émission, c'était de dire qu'on pouvait suivre des ateliers à l'intérieur de ces
enfants,
de
ils adorent
fermes.
Ça.
Exactement.
Les ateliers. Alors, ce savoir-faire de la ferme que nous souhaitons aujourd'hui vous faire découvrir, nous avons en ligne Xavier Leroux, qui est le cofondateur des fermes de Galie. Et c'est lui qui est à l'initiative de la ferme urbaine de Saint-Denis. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors, ça c'est une belle idée, ces fermes, vous l'avez senti dans notre enthousiasme, en plein cœur de la ville, ou pas loin en tout cas. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Saint-Denis d'ailleurs ?
En fait, on a choisi Saint-Denis parce que d'abord nous avons été appelés par la ville à répondre à un projet pour occuper ce territoire maraîcher historique. Mmh. Et nous avons, comme à Saint-Cyr et à Sartreville, en fait, on a proposé un projet qui est à la fois un projet de continuer l'activité agricole et d'ouvrir cette ferme au public, notamment aux familles, aux enfants et aux scolaires. Et ensuite, d'ouvrir aussi cette ferme aux entreprises du territoire qui peuvent aussi faire des journées à la ferme.
Ah,
l'idée, c'est par l'apprentissage, par les ateliers, par la découverte des animaux, par la découverte de ce patrimoine unique aux portes de Paris, parce qu'on est à 800 mètres d'une ligne de métro, parce que on a un patrimoine qui date du XVIIe, XVIIIe siècle, avec des collections d'outils, des collections de films du XXe qui sont présentées dans les salles d'exposition. Bref, on a créé un lieu unique, qui est un lieu d'apprentissage et un lieu de culture, parce que nous aussi, nous sommes persuadés que c'est essentiel aujourd'hui. Nos enfants doivent comprendre ce que sont les métiers du vivant. Et dans nos fermes, on a toutes les générations, toutes les catégories socioprofessionnelles qui se mélangent. C'est assez rare aujourd'hui. Hein. Même en Seine-Saint-Denis, on a des petits Parisiens et des gens de Seine-Saint-Denis. Tout ça, ça vit ensemble,
bien
calmement
sûr.
Et simplement. Et puis surtout, on a besoin de faire découvrir nos métiers parce que nous manquons dramatiquement de candidats dans le métier de l'agriculture, dans le métier du paysage.
Oui,
et
c'est
il faut des lieux comme ça pour faire naître des vocations.
Bien sûr, parce que ce n'est pas simple d'être agriculteur, on le sait bien. Alors, comment elle est composée, la ferme urbaine de Saint-Denis ?
Alors, on a d'abord des bâtiments d'exploitation historiques qui ont été rénovés et qui sont ouverts. On a des expositions
on les
visite, les expositions. Il y a des films qui sont présentés de façon à être aussi dans notre temps pour parler de ces métiers. Et puis, on a un jardin de 3 hectares qui est la ferme historique sur laquelle on cultive et sur laquelle on accueille des animaux. Et à côté, il y a une autre exploitation qui s'appelle Zone Sensible, qui a été créée par le Parti Poétique. Et c'est ensemble ces deux outils qui sont complémentaires et qui accueillent des publics complémentaires.
C'est le Parti Poétique.
C'est beau.
Oui, non, mais on va voter pour le Parti.
Période.
J'espère qu'ils ont un candidat à la présidentielle. Alors, vous pratiquez aussi, alors ça c'est très chic, hein, c'est la permaculture. Alors, il faut expliquer ce que c'est une méthode sans pesticides. Vous pourriez en dire un petit peu plus pour savoir comment ça fonctionne.
En fait, on pratique entre autres la permaculture. La permaculture, c'est en fait des techniques agricoles qui sont inspirées des fonctionnements naturels en s'inscrivant dans un territoire, mais sans le bousculer. Voilà. Et c'est mieux produire en consommant pas de phyto et en ayant des méthodes naturelles pour accroître la productivité.
Pour faire court, expliquer à ceux qui, comme moi, ne sont pas très au courant de tout ça, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de pesticides, en gros, quoi. Voilà, pour faire ça.
Exactement.
On laisse la nature, elle se débrouille très bien toute seule, on l'observe et on l'aide.
Et on pense que l'avenir de l'alimentation, elle dépend de toutes les techniques. Et on ne peut pas raisonner avec une seule technique, et que si on fait de la pédagogie et si on veut attirer des vocations, il faut parler aussi bien de la permaculture et des méthodes les plus naturelles, mais aussi des techniques en hors-sol, zéro phyto ou zéro résidu de pesticides. Je pense qu'il faut... L'agriculture,
d'accord,
c'est complexe, et il faut faire de la pédagogie autour de cette complexité.
Justement, ça tombe bien. Il y a donc les fameux ateliers. Vous nous dites un petit mot, parce que les ateliers, moi, je me souviens, j'avais été là-bas, j'avais laissé les enfants un petit moment. Pendant le temps, je visitais ailleurs. Alors, c'est quoi les ateliers ?
Alors, on peut sur des rendez-vous qu'on prend ou, à l'accueil ou sur Internet.
Ouais.
On peut réserver pour des ateliers pain, on peut réserver pour le jus de pomme, l'extraction du jus de pomme. On a des ateliers de jardinage, on a des ateliers autour notamment du baratage du beurre.
Ouais.
Des ateliers qui sont, je dirais, parfois avec des thématiques de saison.
Ouais. Hein,
avec à Pâques, nous aurons des ateliers autour des œufs, etc.
Ouais.
Et en fait, l'idée, c'est d'être dans le faire. Et pendant 45
faire, oui.
minutes à une heure,
le verbe,
c'est de
faire.
Pratiquer de faire.
Oui.
Faire.
F-A-I-R-E.
Voilà. Exactement. Et de toucher les animaux. On n'est pas dans un zoo, on entre dans l'enclos et on a une sensibilité parce qu'on touche les animaux.
Pour terminer, Xavier, suprême consécration, la Légion d'honneur, quasiment, quoi. Vous serez d'accord avec moi. Cette ferme ouverte figure désormais dans le tout nouveau Routard Paris Grand Nord. Ça vient de sortir. Hein. C'est vous dire si vous avez été choisi parmi les meilleurs. Hein. Franchement,
et là,
Monsieur Clément Théruis, qui a été à l'origine en partie.
Je représente la maison, en effet.
Oui.
Je suis fier de ce guide qui vient juste de sortir. Vous l'avez dit, c'est tellement chouette de pouvoir partir à quelques. On est à 15 minutes de l'Arc de Triomphe. Hein. C'est génial.
Ouais.
Et là, on va pouvoir découvrir plein de choses aux portes de Paris. Enfin, ça fait du bien.
Bon, parfait. Bon, ben on a quasiment tout dit. Xavier, merci beaucoup pour la visite et les explications. Bravo
William.
Pour cette belle initiative. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Au revoir, merci.
Alors, Gavitz, maintenant, vous êtes bien placé pour nous dire pour la suite ce qu'on peut y faire. On peut déjeuner sur place. Hein. Je me souviens qu'il y avait un excellent restaurant et assez grand même.
Bah, on peut acheter plein de produits. Hein. Après,
surtout,
vous allez le faire. Vous allez pouvoir repartir avec votre pain si vous faites l'atelier. Vous allez
c'est
pouvoir partir avec votre jus de pomme, avec votre beurre. Tout ça. Regardez le petit beurre que vous avez fait vous-même. C'est quand même génial. Inscrivez-vous sur le site internet lesfermesdecali.com. On met toutes les informations sur europe1.fr. N'ayez crainte.
Mmh.
Vous réservez en ligne. Vous pouvez appeler, bien entendu. Ça coûte 8,60 € par enfant pour un atelier. Avec la visite de la ferme de Saint-Denis et 4,80 € pour l'adulte accompagnateur, parce que s'il faut montrer des petits gestes, s'il faut soi-même apprendre un petit peu, ça se déroule le mercredi et les samedis pour les ateliers, ça tombe plutôt pas mal. Et à noter que les week-ends de Pâques, les fermes de Gali proposent aussi la chasse aux œufs. On l'a dit, dans chacune de ces fermes, il y en a plusieurs, il y a Saint-Denis, il y a Saint-Cyr, il y a aussi à Sartrouville. Donc bref, vous allez pouvoir... passer un bon moment au nord de Paris.
On peut déjeuner là-bas ?
Bien sûr, il y a la brasserie du Grand Paris qui n'est pas très très loin. C'est à Saint-Denis, c'est tenu par un duo de propriétaires franco-américains. Alors la particularité là, c'est qu'ils brassent eux-mêmes leur bière. Disons qu'est-ce qu'on on aime bien faire, hein, en effet, dans ce Paris Grand Nord. Il y a même une terrasse si on veut apprécier. Il y a même des décapsuleurs pour ouvrir votre bouteille si vous le souhaitez, à consommer bien sûr avec modération dans cette brasserie du Grand Paris à Saint-Denis.
Alors, comme chaque samedi dans cette émission sur Europe 1, on va retrouver une personnalité que vous connaissez qui vient se confier au micro de Daniel Moreau sur une région, une ville, une petite forêt, un lac, etc. En bref, un quelque chose, un endroit cher à son cœur et à son enfance. C'est surtout ça aussi. Alors, du coup, ça s'appelle la France de mon enfance. Et aujourd'hui, c'est Michel Jonas qui nous emmène dans le sud, plus précisément dans la région de Cannes, où il a passé ses vacances. Encore faut-il y aller.
Samedi en France, sur Europe 1.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors on se souvient tous d'un de vos tubes, on allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Alors
oui.
Elles se passaient où ces vacances au bord de la mer ?
Mais en fait, ça se passait la plupart du temps à Cannes. On prenait le train, et alors j'ai ce souvenir d'un train, j'ai connu les trains à vapeur, avec les escarbilles dans les yeux quand on se penchait par la fenêtre. J'aimais beaucoup ce voyage en train. C'était plein de promesses. Et puis effectivement, on arrivait, on ne savait pas où on allait se loger. Donc ma mère, on allait dans un petit hôtel, tout petit hôtel qui était en face de la gare, et puis ma mère allait chercher une location. Voilà, pas cher. Et on passait nos vacances là. Et c'est vrai que c'était un très beau souvenir pour moi. Parce que c'est les îles de l'Érins. Voilà, par exemple, ça c'était un grand panard quoi. Pour moi. Quand on prenait le bateau qui partait du port de Cannes et qu'on allait aux îles, d'ailleurs comme dans la chanson, c'est bien dit, donc Sainte-Marguerite et Saint-Honorat. Donc nous, on allait à Saint-Honorat, qui est la deuxième île après, mais j'aimais beaucoup ça. Alors, on s'achetait des pains bagnards, on mettait ça dans notre sac, on prenait le bateau, Et puis quand on arrivait, c'était, je ne sais pas si c'est encore comme ça, je le pense, mais c'était d'un seul coup une eau transparente, on voyait les poissons. Et on débarquait à Saint-Honorat, on se mettait sur un rocher comme ça, on mangeait notre pain bagnat, puis moi je me baignais, parce que moi, pour moi les vacances c'était d'être dans l'eau, c'était de nager. Ça n'a pas changé d'ailleurs, c'est toujours, en fait c'est toujours comme ça aujourd'hui.
Hein. C'était une ville de riches pour le petit garçon de Drancy, c'était un peu le choc des cultures. Vous étiez quoi? Vous étiez admiratif? Vous étiez envieux de cette opulence?
Pas du tout. On pouvait trouver des locations pas chères. Et pas du tout. Exactement comme c'est dit dans la chanson, il n'y avait aucune envie, aucune jalousie. C'était un autre monde. Quand on regardait le Carlton, quand on regardait les voitures un petit peu luxueuses, et puis les plages privées, parce que ça commençait là. Par contre, j'allais... Ça, c'était aussi quelque chose que j'adorais faire. C'est-à-dire que je me promenais... au port. Et là, il y avait des yachts énormes. Et je pouvais passer des heures à regarder ces yachts et à rêver, à imaginer. Et je me disais, celui-là, alors lequel j'achète? Oui, c'est celui-là. Ah, puis j'en ai un deuxième d'ailleurs, c'est celui-là. Je faisais des trucs comme ça. Et j'aimais beaucoup ce... Vous savez, c'est l'imaginaire, la vraie richesse. Hein. C'est le rêve, la vraie richesse. On n'a pas besoin d'être dans un palace ou d'avoir un yacht de, je ne sais pas, 200 mètres de long hein, pour ça. Donc... oui, c'est pour moi ça, tout ça, c'était des beaux souvenirs. Aussi, il y a un souvenir qui me revient là, c'est que je reviens aux îles. C'était la première fois que je nageais sans avoir pied. Un jour, comme ça, aller sur l'île, c'était à Saint-Honorat, et ça a été une émotion. J'étais môme, hein, très forte pour moi, c'est-à-dire j'ai vaincu une peur.
Vous faites en fait en ce moment deux tournées.
Oui.
Vous avez la version minimale, mais qui est géniale parce que c'est déjà la saison 4 avec votre complice Jean-Yves Angelo, piano voix. Mmh. Et ensuite, vous avez donc un autre spectacle un peu plus qui s'appelle Groove et avec plus de musiciens.
Ce qui permet de faire et des petites salles, des petits endroits, des petites villes avec le piano voix avec Jean-Yves. Ça fait maintenant 9 ans qu'on fait ça. Et de faire, alors évidemment, on a besoin de faire des salles plus importantes, des zéniths et des choses comme ça, avec ce spectacle Groove.
Alors, oui. Que vous soyez n'importe où en France, regardez bien, parce que Michel Jonas va forcément passer près de chez vous. Il ne viendra pas en locomotive à vapeur, mais il viendra. Et de toute façon, quelle que soit la version, c'est toujours bien Michel Jonas.
Donc, c'est allez-y. Gentil.
Merci beaucoup Michel, à bientôt.
Allez, merci beaucoup, je vous embrasse.
Merci monsieur Michel, nous aussi on t'embrasse. Merci beaucoup Danielle, et quand elle vous dit j'adore Michel, elle le pense vraiment. Elle dit pas ça, c'est pas une expression comme ça. Donc il est en tournée, donc il va passer à la raison Danielle, pas loin de chez vous, sûrement.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Comme on vous le propose à chaque fois en dernière partie d'émission, voici un site de plein air où vous allez vous déplacer à bord d'un bateau. Et l'idée part d'un ostréiculteur dont la famille exerce cette profession depuis, écoutez bien, 5 générations. C'est vous dire qui sait de quoi il parle. Mais déjà, d'abord, Gavin, dites-nous où nous sommes précisément. Moi, j'ai dit le golfe du Morbihan, c'est vaste. Hein.
Oui, alors, Morbihan, vous savez, ça veut dire mer petite en breton.
Mer et Bihan, petit. Monsieur Le Bihan, c'est le petit.
Bah voilà.
Ouais.
Pas mal, hein? On apprend des choses dans cette émission. Bref, c'est un des plus beaux paysages de Bretagne. Là, vous n'allez pas me contredire, William. Il y a ce bras de mer qui enlace les îles du Golfe, l'île aux Moines, l'île d'Ilure, l'île d'Ars, entre autres. Hein. Et il y a ces nombreux parcs à huîtres. On vient précisément pour ça. Aujourd'hui, nous allons aller à Baden, un peu dans les terres, à la rencontre d'Yvan Cello, ostréiculteur à la pointe de Toulverne. Alors, il vous propose, Yvan, de plonger dans son quotidien à bord de son bateau électrique. Je précise, pour une promenade silencieuse.
Ah, c'est bien ça,
et oui, comme ça, il ne perturbe pas l'écosystème. Ça, j'aime beaucoup. Vous serez avec lui pendant 3 heures et vous allez tout comprendre de l'huître, de sa naissance jusqu'à votre assiette.
Alors voilà pourquoi c'est une séquence plein air. Parce que vous êtes en plein air, vous êtes sur ce bateau. Et tout ce que vous allez voir, ça mérite vraiment votre regard à 360. Hein, parce
Exactement.
Que tout est beau tout autour. Hein.
Ouais, vous allez au passage, hein, vous allez voir la rivière Dorée,
ah, oui.
Ses deux ports, le Bonneau et Saint-Goustan, la rivière de Vannes, Conlo, Port-Navalo, Loc, Mariaker, l'île Lemoine, je l'ai dit tout à l'heure, l'île d'Ars, bien sûr, Arradon.
Beau Arradon, formidable.
Ah, on y va, William ? Ça vous dit pas ?
Non, mais Arradon,
c'est des lieux vous n'allez pas oublier.
J'ai des bons souvenirs.
C'est vraiment une belle balade. Ça fait du bien, ce golfe du Morbihan. Là, moi, j'aime bien le soir, en fin de journée, quand le soleil se couche, c'est vraiment super beau.
On a la possibilité, parce qu'on est avec un ostréiculteur, on a le droit de goûter des huîtres ou c'est pas l'objet ?
Ah bah, vous savez quoi, William, je vous propose de poser la question directement.
Ah bon, c'est ça. Quand il sait pas, il dit bah, demande-y à l'autre.
Si j'ai une petite idée, quand même. Ah ouais, je vous propose de l'appeler
alors,
directement.
Alors, nous sommes en ligne avec Yvan Cello. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, bienvenue au paradis.
Quand on est un Cello digne de ce nom, on est forcément ostréiculteur. Est-ce que vous aviez le choix, franchement ?
Ah oui, oui, j'ai eu le choix parce que je ne voulais surtout pas devenir ostréiculteur, donc j'ai un peu loupé mon coup. je suis arrivé assez tardivement puisque j'ai commencé à 24 ans et c'est assez tard pour ce métier-là. Mais j'ai fait d'autres choses avant, je me destinais à autre chose et puis au dernier moment, je me suis dit que c'était peut-être le bon choix.
Mais oui, parce que l'ADN de la famille vous a rattrapé, Yvan, c'est ça l'histoire.
Il y a des chances, oui. Oui, oui, complètement. Bon.
Alors, du coup, maintenant, vous savez beaucoup de choses, puisqu'il fait quand même 5 générations que vous entendez parler d'huîtres matin et soir. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste d'être ostréiculteur. Quand on vient avec vous, sur votre bateau, on suit toutes les étapes, je suppose.
Alors, je tente d'expliquer aux gens toute l'histoire de l'huître de sa naissance jusqu'à l'assiette, et puis de leur montrer également une partie du travail de l'ostréiculteur, puisque beaucoup, malheureusement, ne connaissent pas le métier et pensent qu'on est assis sur une chaise à surveiller, juste à regarder des huîtres. Et non, c'est beaucoup plus physique, on travaille beaucoup, et c'est ce côté-là que je souhaite montrer aux gens. Et puis, il faut entre 3 et 4 ans pour élever une huître et 3 et 4 secondes pour la manger. C'est ce rapport-là qui m'intéresse.
Ouais, mais vous êtes gourmand, vous les huîtres, hop là, ça, c'est vite fait.
C'est
avec
ça.
Vous. Mais alors, j'ai la photo de votre bateau. Moi, je me disais, bon, il a son bateau, c'est son petit bateau avec lequel il bosse. Non, mais pas du tout. C'est pas un porte-avions, mais enfin, il y a de quoi rentrer 25 personnes quand même, dites-donc.
Oui. Non, je l'ai conçu spécialement pour ces visites-là pour aller se rendre sur les parcs d'une façon plus facile pour le grand public, on va dire.
Voilà. Ah, d'accord. Et alors, c'est un bateau à fond plat. On peut voir sous l'eau, quoi.
Oui, en fait, au milieu, j'ai une table et quand j'ouvre la table, on voit jusqu'à 2-3 mètres de profondeur. Ça permet de voir des étoiles de mer, des crabes, des huîtres et de la végétation. Donc, c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas l'occasion de voir ce qui se passe sous l'eau.
Alors, c'est vrai.
Donc, un petit plus.
Et selon le parcours, vous vous arrêtez de temps en temps pour expliquer aux gens qui sont là qui est qui quand on regarde sous l'eau, quoi. Il y a une explication.
Exactement.
Vous faites le guide.
Exactement.
Quoi.
Oh, je fais une sorte de guide. Alors, c'est assez ostréicole, mais comme on est sur ce magnifique golfe du Morbihan, on passe à côté des îles, donc j'explique aussi certaines anecdotes ou certaines choses qui ne peuvent ne rien avoir à voir avec l'ostréiculture.
Ah ouais, c'est ça. Mais alors, il paraît que vous faites aussi des sorties couchées de soleil. Et du coup, on fait une petite dégustation en même temps ou pas ?
Oh, c'est une grosse dégustation à bord avec des crevettes, des langoustines, des huîtres, des bigorneaux. Et l'idée, c'est de découvrir un peu le golfe. Et puis, on s'installe tranquille dans les transats, puisque j'ai une quinzaine de transats sur le bateau. Et là, on est plus en mode romantique, contemplatif. Et voilà. Donc là, on quitte le mode ostréicole pour découvrir un peu plus l'entrée, surtout, du golfe. Et puis les îles.
Oui. Oui, c'est ça. Et avec le courant, très important le courant quand on fait de la
voile.
Alors,
on passe dans le courant de la jument, j'aime bien le montrer aux gens parce que peut être plus ou moins spectaculaire.
C'est
spectaculaire,
oui.
Voilà, c'est ce que j'appelle le tapis roulant qui va très vite.
Et quand on passe près de l'île au moins, il faut faire gaffe parce que sinon, on part en marche arrière à cause du courant.
C'est ça, je vois que vous connaissez bien l'endroit.
Souvenir d'enfant.
Ça sent le vécu.
Oui, bien sûr. Et dites donc, les huîtres, il ne faut pas les laisser assécher. Je veux dire qu'on boit ça avec une petite boisson fraîche, si vous voyez ce que je veux dire, dont je ne parle pas à la radio, bien sûr, avec modération.
toujours avec modération. Mmh. Et un petit morceau de pain et du beurre demi-sel, évidemment.
Mmh, demi-sel, ça va de soi. Bon, voilà. Pour un prochain week-end, je vous enverrai M. Gavisque et Monterus, qui connaît bien la région, parce qu'il a dû faire un guide qui parle de cette région-là. Mais lui, il ne connaît pas les huîtres, alors il fera un stage chez vous, hein.
Avec grand
vous
plaisir.
Vous venez, Yvan, quelques jours.
Avec grand plaisir. Je vous ferai découvrir les huîtres crues et puis les huîtres chaudes.
Ah, si, c'est bon. Délicieux, vous avez raison.
Ah oui, ça c'est notre objectif.
Bon, ben, je vous souhaite un bon après-midi. Merci pour cette visite guidée et à très bientôt, j'en suis sûr.
Merci beaucoup à vous deux et à très bientôt.
Merci. Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir. Il y a plein d'adresses, hein, Gavitz, là.
Ah ouais, ouais, c'est très, très riche. Vous allez pouvoir aller, si vous voulez déjà réserver pour aller faire la balade avec Yvan, il faut aller sur son site internet. Ça s'appelle Au rythme des marées. Ou alors, vous allez sur le site du Golfe du Morbihan. Alors, pas d'inquiétude, on met encore une fois toutes les informations sur europe1.fr.
Oui, bien sûr.
Pour le prix, 45 euros la balade pour un adulte, 25 euros pour un enfant. Et il y a un tarif famille, encore une fois, ça c'est vraiment des très très belles initiatives. Deux adultes, deux enfants, 120 euros. Et les sorties, bah, c'est tous les jours.
Ah, tous les jours.
Tous les jours en mer, avec Yvan.
Donc ça c'est plein air toute l'année.
Exactement. Bah,
c'est bon pour nos sites à nous là. Une adresse pour manger, parce que Morbihan.
Bah, Bretagne. Donc. Crêpes et galettes, bien entendu.
Bien sûr,
je
ne
pouvais pas
sûr.
Passer à côté. On ira à Port-Blanc.
Ah bah c'est en face du Lille au moins.
Ouais, exactement. Et on ira à la crêperie Erlanic. Alors c'est une institution locale. C'est une belle maison en pierre avec une jolie terrasse. Il y a des jolies chaises colorées, là, vraiment de toutes les couleurs. Je vous ai commandé la galette à l'andouille de Guéméné, William. 6,60 €.
Vous savez que des galettes, on en mange avec toutes sortes de choses. Hein.
Oui. Et en Bretagne, moi, j'aime bien la galette saucisse. Alors j'adore
ça. Bien sûr. Galette merguez, même.
Oh, j'adore ça. C'est génial. C'est la crêperie Erlanic, juste en face de Lille au moins.
D'accord. Avant de partir, on récapitule ce que nous vous avons présenté aujourd'hui, madame, monsieur. Alors, cette semaine,
nous avons mené l'enquête, William, dans les palais et châteaux du Berry façon murder party.
Allez-y, parce que c'est à la fois ludique, il y a une enquête de fait, mais vous découvrez des palais, des châteaux et des choses merveilleuses. Avec un guide qui, en plus, non seulement il fait le mort, mais en plus, il fait le guide.
Il fait le mort, c'est ça. Après, eh bien, nous sommes allés arpenter le plateau de Gergovie dans le Puy-de-Dôme et son nouveau musée pour tout savoir sur le combat victorieux de Vercingétorix sur Jules César.
Un musée avec du 3D.
Exactement.
C'est high-tech.
On est immergé dans la guerre, dans cette bataille qui est vraiment qui n'est pas assez connue.
Avec
moi, je
des fouilles archéologiques qui sont renouvelées parce que chaque année, ils fouillent encore.
Et là, une nouvelle expo sur Jules César qui va bientôt arriver.
Ce musée est étonnant.
Et on a mis les mains à la pâte, William, dans les nombreux ateliers de la ferme ouverte de Saint-Denis dans le nord de Paris pour y faire du pain, du beurre et bien d'autres choses. Et ça, à 20 minutes des Champs-Élysées.
Et vous achetez des tas de produits que vous pourrez déguster.
Un bon jus de pomme, c'est bon pour le petit déjeuner.
Et vous pouvez caresser les animaux, on a le droit.
Et pour finir, nous avons sillonné le golfe du Morbihan, un petit chef-d'œuvre de l'environnement breton, et ça en bateau avec un ostréiculteur pour guide.
Merci beaucoup. Alors pour terminer, qu'est-ce qui a retenu notre attention dans l'actualité culturelle qui met la France, puisque c'est le but du jeu, entre autres, de cette émission, qui met la France en valeur cette semaine?
Alors, eh bien, William, cette semaine, j'ai retenu un livre, plutôt même un guide. Ça s'appelle « Le guide mondain des villages de France ».
Ça, c'est tout à fait original.
Ah, j'adore. Il est très beau. Ça, c'est écrit par Mathias Debureau chez Alary. Alors, Mathias Debureau, il avait déjà écrit un ouvrage très drôle qui s'intitule « De l'art d'ennuyer en racontant ses voyages ». Je l'ai sur mon bureau.
De l'art d'ennuyer.
Exactement. Vous savez, quand on rentre de voyage et qu'on raconte, et puis ça ennuie tout le monde. Quoi.
Tout le monde. Bon, et voilà. Puis à l'époque, on passait les diapos.
Et ben voilà, il raconte tout ça dans ce livre qui est vraiment génial. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai envie de dire, il récidive, mais c'est un peu plus costaud hein, quand même, c'est très fouillé. C'est le guide mondain des villages de France. Et il a cherché, c'est un guide à l'ancienne qui recense en 670 pages, hein, c'est costaud.
Non, c'est énorme.
Ouais, 500 villages et 500 personnalités, 500 villages oubliés des itinéraires ou des grands de ce monde, des arts, de la politique, de la science, que sais-je encore, sont venus se ressourcer.
Alors,
on apprend par exemple que Marcel Pagnol avait ses habitudes eh bien, à Parçay-sur-Sarthe, dans les Pays de la Loire, que Romy Schneider se retirait à Boissy sans avoir dans les Yvelines où elle repose encore aujourd'hui, bien sûr, et que Georges Lucas, le papa de Star Wars, se ressource dans son château de Châteauvert, lui, c'est le château Margui, pas loin de son ami Brad Pitt. Bref, c'est vraiment de l'art du faire du tourisme mondain, tout en prenant les petits chemins de traverse, avec même des itinéraires à vélo, parce que lui-même, Mathias de Bureau a fait le chemin.
C'est un guide unique à ma connaissance.
Ah oui, j'ai trouvé ça vraiment super.
Et le guide, moi,
il est vraiment très beau. C'est un bel objet. Vous pouvez l'offrir. C'est vraiment sympa. C'est sorti vendredi. Courez chez votre libraire. C'est publié chez Ala.
L'émission est à présent terminée. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Gavins, donc Clément Thérèse et Morgane Biquillet. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 15h pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites, toujours en France, dans 4 régions différentes. Bon après-midi sur Europe 1.